Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Et pour si mauvais, et pourtant elle tourne. On attribue souvent cette phrase à Galilée à la fin de son procès, en 1633, lorsqu'il aurait murmuré ces mots après avoir abjuré devant le tribunal de l'Inquisition. En réalité, on n'est pas sûr qu'il les ait prononcés. La formule apparaît tardivement, bien après sa mort. Elle appartient sans doute davantage à la légende qu'à l'histoire. Mais peu importe, car elle résume admirablement ce que Galilée pensait. Vous pouvez me faire taire, vous pouvez me forcer à me rétracter, vous pouvez m'humilier publiquement, la Terre, elle, continue de tourner. Quand on évoque aujourd'hui le procès de Galilée, on l'imagine souvent comme un affrontement simple, la science contre l'Église, la lumière contre l'obscurantisme. La réalité est beaucoup plus subtile. Au XVIIe siècle, l'Église n'est pas hostile à la science. Elle finance des observatoires, elle soutient des savants, elle pratique l'astronomie. Le désaccord ne porte pas sur l'observation, mais sur le statut de ce qu'on affirme. Galilée ne dit pas seulement « le système de Copernic est commode », il dit « il est vrai ». Et cela pose un problème théologique, bien sûr, mais aussi philosophique et scientifique. Car Galilée n'a pas de preuves directes. Il est convaincu, il a de très bons arguments, mais il ne peut pas montrer. Son procès est aussi en partie un procès de l'absence de preuves expérimentales. Avec le temps, cette nuance s'est effacée et on fait de Galilée aujourd'hui un martyr simple et pur de la science. Il l'est sans doute, mais un martyr complexe. Un homme qui avait raison, mais trop tôt. Quand nous regardons le soleil se lever le matin, quand nous le voyons parcourir lentement le ciel puis disparaître à l'horizon le soir, tout, absolument tout, nous dit qu'il se déplace. Et pourtant, ce n'est pas lui, c'est nous. C'est la Terre qui tourne. Mais comment le sait-on vraiment? Comment a-t-on compris qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du soleil? Au XVIe siècle, Copernic propose que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne aussi sur elle-même. Un siècle plus tard, Galilée défend ses idées avec passion. Il observe le ciel avec sa lunette, il voit les satellites de Jupiter, il voit les phases de Vénus. Tout cela va dans le sens de Copernic. Et pourtant, Galilée n'a aucune preuve directe que la Terre tourne. Aucun objet ne tombe de travers, aucune déviation mesurable, aucune expérience irréfutable. Il croit, il raisonne, il est convaincu, mais il ne peut pas montrer. Pour comprendre pourquoi ça a été si difficile, il faut se replacer dans le regard d'un savant d'alors. Pendant des siècles, on ne connaît pas la distance des étoiles. On les imagine fixées sur une immense sphère, la sphère des étoiles fixes, qui entoure la Terre. Cette sphère tourne avec une régularité parfaite. C'est spectaculaire, c'est cohérent, c'est même beau. Pourquoi imaginer que la Terre tourne quand tout le ciel semble le faire? Chaque jour, le soleil se lève à l'est, montre, descend, se couche à l'ouest. C'est ce que nous voyons, C'est ce que nous avons toujours vu. Aucune équation n'est nécessaire. L'expérience suffit. Et l'expérience dit, le Soleil bouge. Et surtout, nous ne sentons rien. La Terre tourne à plus de 1000 km par heure à l'équateur, et pourtant, pas de vent permanent, pas de vertige, pas de secousse. Nous marchons normalement, les oiseaux volent normalement, les nuages flottent normalement. Rien ne crie « tu tournes ». Galilée comprend pourquoi. Il énonce le principe d'inertie. Si tout bouge ensemble, on ne sent rien. Dans un bateau qui avance doucement, on peut jouer aux cartes comme si on était immobile. C'est une idée géniale, mais c'est aussi un piège. Car si tout bouge avec nous, alors plus rien ne permet de voir le mouvement. Pendant près de 2 siècles, on se trouve donc dans une situation étrange. Beaucoup de savants pensent que la Terre tourne, mais personne ne peut le démontrer simplement. C'est une vérité intellectuelle, mais pas encore une vérité visible. On sait, mais on ne voit pas. Puis, au XVIIIe siècle, la Terre commence à se trahir timidement. On observe que la position apparente des étoiles change légèrement au cours de l'année, comme la pluie qui semble tomber de biais quand on marche. Cela montre que la Terre se déplace dans l'espace. C'est une preuve. Mais une preuve discrète, réservée aux astronomes, peu convaincante pour le grand public. Il faut attendre le 19e siècle pour une expérience spectaculaire. Nous sommes en 1851 à Paris. Sous la coupole du Panthéon, Léon Foucault suspend un pendule très long au bout duquel se trouve une lourde masse. Il le met en mouvement et il attend. Au début, rien ne semble se passer. Puis, lentement, le plan d'oscillation change de direction. Pas brusquement, pas violemment, mais inexorablement. On dit souvent « le pendule de Foucault prouve que la Terre tourne en 24 heures ». Mais ce n'est pas vrai. À Paris, le plan d'oscillation met environ 32 heures pour faire un tour complet. Et c'est précisément cela qui est troublant. Si le pendule montrait directement la rotation de la Terre, on s'attendrait à 24 heures, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Le pendule ne montre pas la vitesse de rotation de la Terre, il montre autre chose. Il montre qu'il existe une direction privilégiée dans l'espace indépendante du sol. Le pendule tente à conserver son plan d'oscillation par rapport à l'espace, tandis que la Terre tourne dessous. À Paris, la rotation de la Terre n'est pas verticale. Le pendule ne voit qu'une composante de cette rotation, d'où ses 32 heures. Ce ralentissement n'est pas un défaut, c'est une signature. Il dépend exactement de la latitude. Et pourtant, il faut reconnaître, ce n'est pas une preuve naïve. Ce n'est pas une expérience qui crie « la Terre tourne ». C'est une expérience qui murmure « quelque chose tourne » et ce « quelque chose n'est pas le pendule ». C'est ici que le détour par Henri Poincaré devient éclairant. Poincaré imagine une Terre entièrement recouverte de nuages, toujours. Impossible de voir le soleil, impossible de voir les étoiles, impossible de faire de l'astronomie. Dans ce monde-là, dit-il, les physiciens construiraient une autre théorie. Ils diraient « la Terre est immobile, mais il existe une force mystérieuse qui dévie les trajectoires, qui fait tourner les vents, qui agit sur les pendules, il l'appellerait peut-être la force de Coriolis. Cette force serait difficile à comprendre, mais après tout, la gravitation ou l'électromagnétisme ne sont pas plus intuitifs. Dans ce monde nuageux, le pendule de Foucault serait expliqué sans faire appel à une Terre qui tourne. Il serait interprété autrement et la physique fonctionnerait. Ce que Poincaré veut dire, ce n'est pas que la Terre ne tourne pas, mais c'est que la rotation n'est pas une vérité absolue, indépendante de tout langage. C'est une façon de décrire le monde extraordinairement simple et féconde. Bien meilleure que les alternatives, mais pas métaphysiquement obligatoire. Quand Poincaré expose ses idées vers 1900, le public se moque. On lit dans les journaux « Les savants ne savent même plus si la Terre tourne ». Poincaré s'agace, il proteste dans ses lettres. Il n'a jamais dit que toutes les descriptions se valent. Il a dit que certaines sont meilleures que d'autres. Plus simples, plus unificatrices, plus efficaces. Cette histoire nous apprend quelque chose de profond. On peut avoir raison longtemps avant de pouvoir le prouver. Copernic par intuition, Galilée par cohérence, Newton par théorie, Foucault par expérience, et Poincaré nous apprend à réfléchir sur ce que signifie avoir raison. Aujourd'hui, quand on apprend cela aux enfants à l'école primaire ou au collège, on ne commence pas par Copernic, Galilée ou Poincaré. On commence par des choses très simples. On sort un globe terrestre, on l'éclaire avec une lampe, on montre qu'un côté est dans la lumière, que l'autre est dans l'ombre, puis on dit « quand la Terre tourne, le jour devient la nuit ». On montre parfois des photographies du ciel nocturne où les étoiles tracent des cercles. On explique que ces cercles sont dus à la rotation de la Terre. On montre des vidéos du pendule de Foucault, on parle de satellites. On accumule des indices, sans faire de longs discours philosophiques. On ne dit pas « voici pourquoi c'est vrai au sens métaphysique », on dit « voilà pourquoi ça marche ». Et peu à peu, l'idée devient naturelle. Curieusement, on parle souvent moins de la rotation de la Terre autour du Soleil, comme si elle allait de soi. Pourtant, historiquement, elle a été presque aussi difficile à accepter. On l'explique par les saisons, par les planètes, par les images de l'espace. On montre que la Terre fait une boucle autour du Soleil en un an. Mais on insiste moins sur le mystère. Et pourtant, au fond, c'est la même question. Pourquoi ne serait-ce pas le Soleil qui tourne autour de la Terre? Pourquoi choisit-on ce point de vue-là? La réponse est la même, parce que c'est plus simple, parce que tout s'organise mieux, parce que les lois de la physique deviennent plus claires. Sans le savoir, on apprend ainsi aux enfants une idée très profonde. En science, on ne cherche pas seulement ce qui est vrai, on cherche ce qui est intelligible, ce qui relie, ce qui permet de comprendre beaucoup de choses avec peu d'hypothèses. La Terre tourne sur elle-même, autour du Soleil, et nous avec. Aujourd'hui, cela semble aller de soi, mais derrière cette évidence apparente, il y a des siècles de doutes, d'erreurs, de débats, d'expériences et de réflexions. Comprendre que la Terre tourne, ce n'est pas seulement apprendre une donnée scientifique, c'est apprendre à se décentrer, à accepter que notre point de vue n'est pas privilégié, à faire confiance à des descriptions du monde qui vont contre notre intuition. C'est au fond une leçon d'humilité. Vous avez écouté des extraits du Noir de l'Étoile de Gérard Griset. Dans cette pièce, les pulsars, horloges de l'espace-temps, constituent le point de départ d'une œuvre pour percussionniste portée par la rotation, la périodicité, la décélération et l'accélération.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.